Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h43, juste avant Elisabeth Lévy, Arlette Chabot, Éric Revel et vos appels 0826-300-300. On fait un petit tour sur la presse. Et
oui, revue de presse, on regarde des journaux, absolument, avec ce titre, le casse-tête, hein, qui est à la une de Nice matin, Benjamin.
Oui, avec en photo pour illustrer ce Niçois qui s'arrache littéralement les cheveux, le masque au bec. Et oui, puisqu'il va falloir effectivement s'habituer, s'adapter à ce confinement localisé. Face à l'épidémie, Macron choisit le pragmatisme, indique pour sa part le Figaro. Nice et tout le littoral des Alpes-Maritimes placé en reconfinement partiel pour les deux prochains week-ends. Le chef de l'État veut privilégier une approche territorialisée avec cette mesure qui était réclamée par le maire de Nice, Christian Estrosi. Le Figaro qui ajoute cette fois-ci le couple maire-préfet semble avoir fonctionné. En tout cas, si c'est une première, ça pourrait arriver ailleurs. En témoigne l'inquiétude à la une de la Dépêche du Midi. Confinement local, c'est parti. Les Français sont donc prévenus. Le gouvernement veut éviter par tous les moyens un reconfinement général, mais il ne s'interdit plus en revanche de prendre des mesures de restriction local. À qui le tour? Ça, c'est la question que l'on peut découvrir aussi à la une de la Provence.
Oui, c'est vrai. Les vaccins, est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur leur efficacité? Eh bien, les Échos, le journal, parlent de leur côté justement de cette efficacité démontrée, disent-ils, des vaccins.
Oui, plusieurs preuves selon le quotidien économique. Tout d'abord, bien une première étude israélienne prouve l'effet déjà du vaccin Pfizer pour bloquer la transmission du Covid-19. Autre indicateur, les hospitalisations chutent au Royaume-Uni et selon des chercheurs écossais, eh bien c'est grâce à la vaccination. D'ailleurs, le Premier ministre anglais Boris Johnson a dévoilé enfin un déconfinement très progressif du pays.
Oui, une amende record aussi pour Cdiscount, hein, qui est à la une de Sud-Ouest.
Exactement, là. Le numéro 1 français du e-commerce, dont le siège est à Bordeaux, vient d'être condamné à près d'€1 million d'amende pour un défaut d'information du consommateur. En gros, les récapitulatifs de commandes étaient jugés incomplets en ce qui concerne les abonnements Cdiscount à volonté, une offre de livraison gratuite illimitée. Offre gratuite, oui, mais seulement pendant 6 jours. Ensuite, ça devenait payant. La justice a estimé que ce n'était pas dit clairement, d'où cette amende de plus de 986 000 euros.
Oui, et puis un mot du rugby et du coronavirus à la une de l'équipe.
Ben oui, une équipe de malades, nous dit effectivement le quotidien sportif pour ce tournoi.
Bien joué.
Destination, voilà, bien trouvée, brillante, invaincue depuis le début du tournoi. L'équipe de France se retrouve privée de la moitié de ses titulaires testés positifs. Une équipe fortement contrariée dans sa préparation du match contre l'Écosse prévu dimanche prochain.
Oui, question d'ailleurs, Benjamin, est-ce qu'il y aura un match la décision doit être prise. Là, il ne tient qu'à un fil pour l'instant. La décision devrait être prise d'ici 24-48 heures. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure à 9h15, à 9h plus précisément, avec François Triot, notre spécialiste présentateur de Sud Radio Rugby, et puis Bernard Castan, qui est un infectiologue du côté de Périgueux et qui est spécialiste du rugby, qui sera avec nous pour nous éclairer sur cette bulle qui a été percée.
Qui a explosé.
Oui, absolument, cette bulle sanitaire du 15 de France. On poursuit avec la République des Pyrénées, Nicolas Robière qui est avec nous, directeur de la publication. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous.
Alors en une, à quoi vont ressembler, ou va ressembler plutôt le climat dans les Pyrénées en 2100?
Oui, vous savez que en début février, Météo France a sorti plusieurs scénarios, vous savez, de climat en France en 2100, basés sur le rapport du GIEC et les trois scénarios, vous savez, le scénario, on va dire, optimiste à plus de 2 degrés et le pessimiste à 4 et l'intermédiaire. On a voulu faire la traduction, on va dire, de ces projections pour les Pyrénées. C'est pas brillant, vous imaginez, puisque on se rend compte que quand on s'élève de 150 mètres, on perd 1 degré. Si vous augmentez de 2 degrés, la limite pluie-neige va augmenter elle aussi, ce qui commence à inquiéter évidemment les gestionnaires des stations de ski, puisque Météo France nous prédit, le GIEC et Météo France nous prédit de toute façon que la saison de neige sera plus courte, et qu'on trouvera la neige beaucoup plus haut, c'est-à-dire à 1800 mètres. Or, dans les Pyrénées, vous le savez, beaucoup de stations sont en dessous. On a des stations de moyenne montagne, et il faut commencer à anticiper ce genre de choses. Par exemple, le département des Pyrénées-Atlantiques, qui gère deux stations, que sont Gourette et la Pierre-Saint-Martin, ont commencé à réfléchir à un plan neige où, effectivement, le front de neige serait plus haut, fatalement, et peut-être plus court. C'est ça qui inquiète un peu plus ces professionnels.
Oui, absolument. Ça, c'est le scénar catastrophe. Hein, après,
c'est le scénario catastrophe, voilà. Ceci dit, catastrophe, il est basé sur des données scientifiques, le rappelle Météo France, et que de toute façon, il rappelle par exemple qu'en 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé 7% dans le monde, mais il y a eu une pandémie. Mmh. On ne va pas faire ça forcément tous les jours, et que de toute façon, il faut se prévoir à des étés beaucoup plus chauds. Par exemple, Météo France prévoit aussi, par exemple, des nuits, 50 nuits méditerranéennes, on va dire, c'est-à-dire des nuits où la température ne descend pas au-dessous de 20 degrés sur le Pays Basque et sur le Béarn. Pour le coup, on le sait, au Pays Basque en Béarn, on est plutôt dans des températures beaucoup plus clémentes que l'été.
Plus fraîches.
Il va falloir s'habituer.
Fraîche. Si on peut parler de fraîcheur quand on est en pleine saison estivale. Merci Nicolas Robière, c'est à lire dans La République des Pyrénées, et puis un dossier aussi sur le basket avec l'Élan Bernais qui va devoir enchaîner les matchs. Hein. Marathon de 23 matchs en 3 mois, évidemment, avec toutes les conséquences de la crise du Covid.
Et on continue avec le petit déjeuner de l'actu. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Eric Revel d'Azur TV. Vos appels, comme tous les matins, 0826-300-300.
Oui, et puis il y a le reconfinement, notamment localisé, qui continue de faire beaucoup causer avec la décision prise à Nice hier. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez incroyable qu'on a du mal à comprendre, Arlette Chabot. Pourquoi on l'a décidé, en fait, pour Nice, et pourquoi on ne le fait pas pour Dunkerque, alors que, visiblement, le taux est plus élevé?
C'est une bonne question.
Oui, mais vous n'avez pas la réponse.
Il y a une réponse politique, hein, c'est pas juste une facilité. C'est vrai que Christian Estrosi a une proximité sans doute avec le ministre de la Santé. Quand il est venu samedi, Olivier Véran, je ne suis pas sûre qu'il était sur cette idée de reconfiner. Et d'ailleurs, Christian Estrosi est assez isolé, hein, au fond, parmi les élus de cette région. Les autres maires n'étaient pas favorables à ce confinement, même du week-end. Bon, il y a une proximité politique. Alors, on va voir, le maire de Dunkerque demande aujourd'hui un entretien en urgence au Premier ministre, et on dit que Olivier Véran pourrait annoncer des mesures concernant Dunkerque, qui a un taux, effectivement, de contamination supérieur à celui de Nice dans les heures qui viennent. Alors, ça peut s'expliquer, effectivement. Moi, je n'ai pas d'autre explication que cette proximité politique qui favorise... Parce qu'on dit la Moselle, c'est un cas différent, mais là, on a aussi sur des chiffres sanitaires, on dit c'est différent. En revanche, Dunkerque est plus touché que Nice.
Les deux villes du carnaval, Nice et Dunkerque. Elisabeth Lévy et Éric Revel.
Oh non, alors là, moi j'ai vraiment aucune lumière, mais la seule chose que je constate, c'est que peut-être, parce que là, on voit des gens qui, eux, demandent des mesures plus restrictives, mais il y a quand même beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de Niçois et je suis pas sûr que ça les enchante. Donc il y a aussi une façon de faire assumer la responsabilité par les autorités locales, tout simplement. C'est parce qu'au début, on avait quand même un gouvernement, si vous voulez, qui... ce que je veux dire... En tous les cas, pour le gouvernement, c'est pas une mauvaise affaire, mais cela dit, j'ai pas d'explication. C'est que, du coup, ça n'a pas l'air d'être une mesure gouvernementale imposée par en haut. C'est une demande des populations locales.
Oui, alors bon, le régional de l'étape, justement, Éric Revel, d'Azur TV.
Moi, je partage absolument le point de vue d'Arlette, que je vais compléter. Hein. D'abord, il y a eu une fronde de certains maires des Alpes-Maritimes. Je pense à David Lisnard à Cannes, à Jérôme Vion à Grasse, à Jean-Léon Lionetti à Antibes, ou même à Lionel Luca à Villeneuve-Loubet, qui était contre ce confinement. Maintenant, Christian Estrosi, il joue aussi une carte politique. Ça fait plaisir à personne, le confinement, mais il joue une carte politique. Pourquoi ? Bon, vous avez les régionales qui se profilent, et vous avez surtout Christian Estrosi, maire de Nice, qui veut montrer qu'il est le premier à prendre des initiatives. Vous savez, ça avait été un des premiers à commander des masques au moment où les masques n'arrivaient pas de Paris. Ça a été le premier à prendre des arrêtés municipaux, même si les arrêtés se sont fait retoquer pour empêcher Airbnb de louer, etc. Donc, en fait, il veut aussi il veut apparaître comme le premier. C'est le premier qui a annoncé, je vous rappelle, que le 15 septembre, quoi qu'il arrive, les lieux culturels rouvriront à Nice, vous voyez, par exemple. Donc, il prend des initiatives politiques, et c'est vrai que ça met beaucoup de lumière sur Nice et sur son maire. Maintenant, ça n'a pas empêché, en voulant être le premier partout, qu'on a un taux d'incidence de 583 à Nice et dans la métropole. 900 et des poussières à Dunkerque, c'est plus, oui. Mais voilà, Olivier Véran vient à Nice, il ne vient pas à Dunkerque. Okay. Donc, c'est une mesure à la fois sanitaire et politique. Maintenant, ce que disent les gens sur place, si vous voulez, c'est que, bon, Territorialiser une décision, c'est bien, parce que tous les maires, les élus la réclamaient, cette territorialisation. Il faut que le pouvoir jacobin, parisien, fasse plus confiance aux gens qui sont sur le train. Tout ça est vrai, mais l'efficacité même d'un confinement d'un quart de semaine, de jour, bah, c'est pas prouvé. Mais moi, je suis convaincu d'une chose, et j'arrêterai là, c'est qu'en fait, les Alpes-Maritimes vont servir un peu d'appartement témoin. Vous voyez, ils vont servir un peu de département pilote, dont on va voir si ça peut, plutôt que faire un reconfinement général, se terminer avec des confinements locaux ou régionaux. Voilà. De ce point de vue-là, on est pilote dans les Alpes-Maritimes, je pense.
Oui, c'est vrai. Quand on pose cette question depuis ce matin sur les réseaux sociaux, le confinement localisé est-il une bonne solution ? 70% des gens répondent non. Bon, alors, c'est motivé aussi cette réponse par le fait qu'il ne faut pas confiner, qu'on ne veut pas confiner pour une bonne partie de la population. Cela dit, Arlette Chabot, on évoque beaucoup quand même en coulisses une possibilité d'un reconfinement national, alors peut-être par pan du territoire, mais c'est évoqué avec toujours une situation dans certains hôpitaux qui est difficile, notamment je pense à l'Île-de-France.
Oui, je pense que
et Marseille.
Évidemment, Emmanuel Macron fera tout pour éviter, hein, puisque son choix il y a 3 semaines, on a beaucoup salué à l'époque le choix du président, il nous évitait chaque jour passé est un jour gagné pour éviter le confinement. On a dit qu'il avait pris une décision politique sage. Approuvé par les Français, la cote de popularité qui monte, c'est dû à ça. Bon, maintenant, on voit bien. Alors, on est Alpes-Maritimes, Nice, la côte, le littoral, on parle de Dunkerque, on reparle de la Moselle, on parle évidemment de Paris avec une alerte lancée par Martin Hirsch, le patron de la PHP hier. Donc, petit à petit, il va y avoir sans doute des petites tâches hein, de confinement, de reconfinement. Mais pour l'instant, évidemment, le gouvernement ne veut pas ce confinement général, ne veut pas recommencer ni mars, ni novembre, évidemment. Mais en même temps, eh ben, s'il n'y a pas de décision nationale, il y aura, parallèlement à ces demandes de confinement, des mesures, on le voit dans l'Ouest, d'allègement, au contraire, du couvre-feu. Donc, il est totalement coincé, ce gouvernement, entre les demandes qui sont opposées, contradictoires, et une pression maximale.
Bon, c'est vrai. Allez, on va aller au standard. Alors qu'il y a, par exemple, dans les commentaires, Roger qui nous dit qu'il contrôle les aéroports, les trains, les bus, les voitures hors PACA qui arrivent open bar à Nice depuis un an, plutôt
ça.
Que...
C'est ce qu'ils vont faire, d'ailleurs.
Voilà,
partie,
c'est ça. Hein, plutôt que de...
Il y a des tests pour les départs et les arrivées à l'aéroport de Nice, qui ont été réalisés. Là,
oui, alors c'est ça, mais qui viennent tout juste d'être réalisés, Eric, quand même. Ça fait un mois et demi qu'il n'y en avait pas.
Oui, hein, vous avez raison. Enfin, moi, je peux vous donner mon expérience, ça vaut ce qu'elle vaut, mais moi, il m'arrive souvent de prendre l'avion pour aller à Paris, on m'a jamais demandé un test.
Non, mais c'est ça qui est dingue.
Ni pour partir, ni pour revenir.
Ni prise de température, ni rien.
Ah non,
incompréhensible.
Ça, c'était le cas au moment du premier confinement du mois de mars, je m'en souviens, où on prenait la température quand j'embarquais dans l'avion. Mais depuis, j'ai jamais eu aucune demande. Bon, quand vous aviez le confinement, vous montriez l'attestation, oui, mais les prises de température au front, c'était en mars dernier, et depuis, rien.
Et pas de gel hydroalcoolique dans les avions non plus.
Il y a des petites lingettes quand même, Cécile. Hein, quand vous montez, des petites lingettes.
Oui, parce que normalement, c'est obligatoire quand vous rentrez dans un commerce, c'est-à-dire qu'on vous oblige à le mettre, que là, on ne vous l'oblige pas.
Ah non, on ne vous oblige pas à prendre les lingettes qui sont à vos dispositions dans des petites, sachets
alors
fermés.
Alors que chez les commerçants,
Bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ne prenez pas l'avion, marchez plutôt. Hein, ça
fera quand même du
ça vous fera 8 jours.
8 jours, 300, avec Joséphine qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Joséphine.
Bonjour Joséphine.
Bonjour, bonjour à tous, vous m'avez fait rire. Bientôt la charrette et le cheval.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur ce confinement notamment localisé à Nice ?
C'est pas le confinement par lui-même, parce que c'est vrai que les Alpes-Maritimes, c'est un endroit où il y a tout qui se croise, tout qui débarque, etc. C'est vrai que là, il y a beaucoup de monde qui va. C'est sur la façon. Monsieur Estrosi, et j'ai écouté Arlette Chabot tout à l'heure, et tous ses confrères, d'ailleurs, qui disent la même chose que moi. Alors, j'ai dit, je suis dissidente, je pense... différemment, mais non, finalement, vous pensez comme moi. Ouais. C'est-à-dire que M. Estrosi n'a qu'un but dans la vie, c'est de se montrer. C'est vrai qu'il y a des choses à faire.
Oui.
Mais bon, M. Estrosi, depuis qu'il a commencé la politique, ne pense qu'à une chose, c'est de se mettre devant et de montrer qu'il existe. Parce que à partir du moment où les journaux ne parlent pas de lui, il n'existe pas. Ouais, alors c'est malheureux pour lui, vous voyez. Ouais. Il a un ego un peu surdimensionné, voilà.
Ouais. Non, bah alors, c'est possible, c'est votre opinion, Joséphine. En même temps, on peut peut-être comprendre. Souvent, on reproche à des politiques de ne pas agir, de ne pas prendre des décisions. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, mais au moins qu'ils prennent des décisions, c'est pas mal. Je dis pas en fait que c'est la bonne décision, hein, en tout cas, mais les politiques, ils sont là pour agir aussi, non ? Vous croyez pas ?
Mais il y a un truc qui est regrettable, c'est qu'on élit des maires, et puis on leur dit bon ben tu fais ce que je te dis, tu fais pas ce que tu veux. Ouais. Alors bon, il y a des choses qui sont incohérentes au niveau de la gestion de la France. On ne va pas partir là-dedans parce que ce serait trop long.
Ouais.
Mais bon, moi c'est la façon de faire d'Estrosi qui me déplaît.
Bon, d'accord.
Depuis toujours. Ouais. Depuis toujours. Il faut absolument qu'ils se mettent en avant. Et ça, cette façon de faire, ça m'horripile.
Ouais. Bon, mais c'est sans doute pour ça que, comme le disait Arlette Chabot tout à l'heure, il y a une décision de prise pour Nice et les Alpes-Maritimes, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais et du coup, il n'y en a pas pour la Moselle ou pour Dunkerque.
Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a des situations comparables, il faut qu'il y ait les mêmes décisions.
À suivre. Merci en tout cas, Joséphine, 0826 300 300. Vous pouvez appeler de la même manière pour réagir, tiens, tout à l'heure, aux URSSAF, puisque on va recevoir un avocat spécialiste qui vient d'écrire un livre sur l'URSSAF, un cancer français. On parlera également des liquidations d'entreprises. Les mandataires ont pour mission aujourd'hui de ne pas de tout faire pour éviter les liquidations et d'essayer de les accompagner pour pouvoir passer cette période de turbulence. Donc on en parlera à 10h moins le quart et dans un instant du rugby aussi avec
le
suspense qui plane autour de ce match, hein, puisqu'il y a eu une dizaine de cas positif, il y a des cas négatifs maintenant, Cécile. On va faire le point dans un instant.
On va en parler avec François Triot. Ouais. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et ce matin, dans le petit déjeuner de l'actu, on va vous parler rugby avec le 15 de France décimé par le Covid. En plein tournoi des Six Nations, et pour en parler ce matin, Bernard Castan, qui est infectiologue à Périgueux, spécialiste de rugby, et François Triot, présentateur de Sud Radio, sur Sud Radio du rugby. Bonjour messieurs.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Oui, merci d'être avec nous. Alors, il y a une question. Bon, ce matin, il y a eu des nouveaux tests qui ont été réalisés, là, ce que dit la Fédé, qu'il n'y a pas de nouveaux cas positifs, en dehors donc des premiers qui ont été positifs. Pourquoi il y a une question, on avait parlé, Bernard Castan, on avait parlé d'une bulle sanitaire, donc il y a eu, elle a été percée, il y a eu des trous dans cette bulle. Comment est-ce possible ?
Il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a eu inexorablement au moins un cas zéro, qui est peut-être annoncé comme connu, mais il y avait aussi la problématique, je crois, du groupe Seven qui avait participé à des entraînements. Quoi qu'il en soit, au-delà du cas zéro, pour avoir un cluster, il faut qu'il y ait un échec du protocole de transmission croisée. Et c'est ça, un des éléments très importants de l'enseignement de cette affaire-là, c'est que c'est à partir d'une souche, il y a une dissémination dans un groupe, et on comprend bien que dans le cas particulier du rugby, les risques de transmission au-delà de protocole.
Oui. Bernard Castan, on a un petit souci sur la ligne où ça grésille beaucoup. On va vous rappeler pour avoir une meilleure ligne, parce que évidemment pour les auditeurs ce n'est pas très agréable. On est désolé. On vous rappelle en fait dans une seconde. François Triot. Donc ça pose en fait un certain nombre de questions sur la suite. Est-ce que le match contre l'Écosse peut avoir lieu ce week-end?
Je pense qu'il va avoir lieu. On en aura la certitude, je crois que la réponse va être donnée demain, hein. C'est ce qui a été dit hier, puisqu'il y a une réunion du comité des destinations, le problème est quand même pris assez sérieusement par les institutions, donc ils vont rendre leur verdict demain, mais compte tenu du communiqué que vient de faire paraître la Fédération ce matin après les tests hier soir de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il n'y a que des tests négatifs, ça veut dire que les 31 joueurs qui sont mobilisés, alors c'est plus du tout le même groupe que celui qui a battu l'Irlande, c'est sûr. Mais en tout cas, ces joueurs-là, si les tests se maintenaient négatifs, ils sont quasiment testés tous les jours, les joueurs, eh bien, ça veut dire que le match aura lieu dimanche. Et on le vivra en direct sur Sud Radio. Ouais.
Mais, oui, bah bien sûr. Mais même si donc la moitié de l'effectif est décimé, quoi. Il ne peut pas y avoir de réclamation de la part de l'équipe de France pour dire, voilà, on est touché par ce Covid. Donc, est-ce qu'on peut décaler, le match à plus tard, quoi?
Alors moi, je ne suis pas dans les discussions.
Non, non.
Ce que j'entends, ce que je lis et ce que je sais, c'est que le calendrier n'est pas aussi glissant pour la destination que dans le top 14, qui est un championnat au long cours, parfois trop long même. Mais en tout cas, le comité destination, lui, eh bien, se donne peut-être un répit d'une semaine pour l'Écosse-France s'il devait être décalé. Voilà, mais en tout cas, ça ira pas beaucoup plus loin. Alors, ça pose effectivement le problème de l'équité sportive, puisque c'est vrai que le groupe France, là, il a plus du tout la même physionomie. C'est-à-dire, quand vous avez plus Antoine Dupont, quand vous avez plus Julien Marchand, Cyril Baye, Charles Olivon et Brice Dulin, c'est quand même 5 joueurs clés dans votre 15 de départ.
Hein. Ah bah non, mais c'est sûr, ça change tout, quoi, bien sûr. Hein. Alors que les autres nations n'ont pas été aussi touchées, hein, François, pour l'instant, que ce soit les Écossais, les Anglais et les Irlandais, etc. Hein.
Non, ce qui va peut-être d'ailleurs poser un problème pour les Écossais. Hein. Est-ce qu'ils vont vouloir ou pas jouer contre les Français? Ça, c'est une des questions. Mais on se souvient que quand même, le variant anglais, il est entré peut-être sur notre territoire via une équipe de rugby anglaise, Leicester, qui avait joué à Bayonne sans respecter trop le protocole. Donc, c'est peut-être... je pense que ce virus, c'est difficile. Et Bernard Castan pourra en parler mieux.
On l'a retrouvé, Bernard Castan, au téléphone.
Ouais. Excusez-moi.
Mais c'est de notre faute, nous n'avions pas une bonne ligne. Bernard Castan, donc vous disiez, revenons, parce qu'on n'a pas évidemment tout compris sur pourquoi, évidemment, cette bulle a éclaté et le virus a réussi quand même à se contaminer.
Non mais l'idée. Alors, je ne savais pas si on avait affaire à un variant clairement déterminé, si on avait validé le fait que c'était un variant anglais ou une souche usuelle. Je ne sais pas si vous avez l'info.
Non.
Le variant anglais étant quand même a priori plus contagieux. Or, clairement, on doit avoir l'info. L'info existe.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a criblé la souche et on a le séquençage. Donc, il faudrait quand même savoir ce que c'est. Au-delà de ça. Il est évident que dans le cadre ne serait-ce que des entraînements physiques au contact, etc., on est dans le risque maximum de transmission, même si on fait très attention en amont dans les staffs, les briefings, etc., les chambres individuelles et un protocole rigoureux en Marcoussi, il est évident que les mises en contact, c'est là où je suis même très surpris qu'au décours du match avec l'Irlande, il n'y ait aucun cas irlandais.
Ça me paraît très troublant
sur un match complet qu'il n'y ait pas eu de transmission 10 jours après.
Pour compléter le propos de Bernard Castan qui souvent nous éclaire quand on parle sport et rugby sur Sud Radio, a priori c'est un variant anglais.
C'est validé.
Serge Simon, le vice-président de la fédération qui est médecin, en parlait hier dans les colonnes de Midi Olympique.
C'est ça. Donc, ce variant anglais qui est beaucoup plus transmissible, quoi, c'est ça.
C'est effectivement ça. Donc, ça peut expliquer un des éléments, malgré la rigueur des protocoles établis, le fait qu'effectivement, on augmente la probabilité de transmission interindividuelle. Après, ce qui pose problème, on le voit bien, c'est qu'à partir d'un cas identifié, il y a une dissémination en nappe. Samedi dernier, on en discutait sur Sud Radio, et je disais, on n'est pas au bout des cas dépistés. C'est bien ce qui s'est produit depuis. On est à un tiers quand même de l'effectif positif. Un tiers de l'effectif, c'est un cluster conséquent. Alors aujourd'hui, on a de très bonnes nouvelles. La série de tests d'hier est négative. C'est une très bonne nouvelle. L'inverse aurait été problématique, mais ça ne veut pas dire que c'est réglé.
Alors ça peut encore se déclarer, d'ailleurs, dans les jours qui viennent, puisqu'on sait qu'il y a une période d'incubation qui peut être plus ou moins longue, quoi, de 7 à 10 jours.
Oui, tout à fait. Et donc, de toute façon, c'est là où le débat il est un petit peu compliqué. C'est les mesures d'isolement de toutes les personnes qu'on définit comme cas contact, c'est à minima, s'ils ne sont plus du tout ensemble les uns avec les autres, c'est PCR à 7 jours de contrôle pour valider qu'on est autorisé à lever l'isolement. Par rapport aux derniers jours de contact, moi je ne sais pas depuis quand il y a eu interruption complète et totale des des contacts avec le groupe
Contact. Oui, alors ce qui a été dit hein, par Serge Chimon, qui est le vice-président de la Fédération française, c'est que le patient zéro, on le connaît a priori, c'est le préparateur hein, physique hein, qui est venu, donc avec, voilà, il était positif, et puis bah, il y a eu la contamination après en masse, quoi, qui ne s'arrête pas. Quoi.
Alors ça pose problème, parce que le cas zéro n'étant pas un joueur, ouais. La contamination, elle ne s'est pas faite pendant un entraînement physique, quoi, probablement. Elle s'est faite, pas au contact physique d'une activité rugbystique. C'est quand même une diffusion dans le cadre d'un protocole rigoureux qui aurait dû éviter ce genre de choses. Moi, je suis très embêté qu'on propose, pour s'en sortir, un test de dépistage tous les jours, alors qu'on nous promet qu'en gros, puisque tout était négatif hier, c'est bon, c'est fini, on vous garantit que c'est réglé, mais on va quand même contrôler tous les jours au cas où. Ouais. Quand on contrôle tous les jours au cas où, c'est que quand même,
il y a des doutes.
On a une certaine inquiétude.
Et là, de toute manière, on ne peut plus trop rien faire, en dehors de prendre ces mesures, ces gestes barrières, etc. Mais les joueurs continuent de s'entraîner, quoi, entre eux. Donc,
c'est quand même problématique de réunir dans un néo-groupe reformé, évidemment, tous ceux qui ont été positifs sont exclus de fait. Dans le lot, ce qui pose problème, c'est les gens qui sont négatifs, mais dont on n'a pas la certitude qu'ils n'ont pas un degré d'incubation, qui vont se révéler positifs dans les 48 heures qui viennent, et de les regrouper avec ce que j'appelais des oies blanches, quoi, des nouveaux joueurs complètement indemnes de tout contact. Parce que si on n'y avait pas nouveau cas...
Ouais. Il n'y avait pas d'entraînement collectif avant mercredi.
Oui, c'est ça.
Pour l'instant à l'isolement, donc pas d'entraînement collectif. Mais moi, j'ai peut-être une question juste pour Bernard Castan. Est-ce qu'un sportif de haut niveau, qui est, on va dire, par définition un être à part, est-ce qu'il n'est pas aussi face à ce virus un patient à part?
Je pense que dans cette logique-là, la première chose, c'est qu'il aurait dû y avoir une priorisation de la vaccination pour ces joueurs. Quoi. C'est-à-dire, on fait du rugby international avec des anglo-saxons. Franchement, dans le contexte un an après de connaissance de l'épidémie, de l'explosion du variant anglais qui devient majoritaire, je pense que quand même, il y avait un intérêt majeur à proposer une vaccination en amont. Bon, aujourd'hui, c'est un autre débat. Effectivement, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que même cause, même effet, et que la rupture, la transmission, malgré un protocole rigoureux en amont, depuis la réunion de Nice, depuis le regroupement à Nice, etc., a été mis en échec. Donc, il faut quand même s'interroger là-dessus. Même cause, même effet.
Est-ce que ça fait des individus plus fragiles, justement, le fait d'être un sportif de haut niveau?
Non, ça fait pas des gens plus fragiles. Loin s'en faut. La preuve en est, aujourd'hui, on n'en a aucun qui est en réanimation. Ou qui a une forme manifeste, clinique, sévère, imposant, ne serait-ce qu'une hospitalisation, sans parler de drame de réanimation. Donc non. Par contre, le type d'activité qu'ils ont, s'il y a un cas positif, augmente considérablement le risque de transmissibilité. Ouais. C'est évident que c'est pas pareil de faire du patinage artistique en solo et de faire une mêlée... Avec des
Et même si on est sportif de haut niveau, on peut être assez sérieusement touché. Hein. Je crois qu'il y a, un Clermontois, François Attriot, qui a été, je ne sais plus lequel, mais qui a été séché pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Hein. Non, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas en fait dans le sport de haut niveau, où notamment depuis le premier confinement, on va dire, où des sportifs touchés ont du mal à récupérer. Hein. Quand on en parle, alors c'est pas médiatisé, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, moi j'ai parlé avec des préparateurs de foot de haut niveau et tout, certains ont toujours des séquelles.
Dans ma réponse, il y avait deux choses, c'est-à-dire on n'est pas plus à risque de développer une forme sévère immédiate. Par contre, que l'on n'arrive pas à rejoindre le niveau extrêmement élevé de compétiteurs antérieurs, effectivement, c'est une autre problématique. Ouais. Ce que j'ai voulu dire dans ma réponse, c'est qu'il n'y a pas plus de risque qu'on retrouve ce patient dans les 15 jours qui suivent en hospitalisation parce qu'il est sportif de haut niveau. Par contre, qu'il ait des difficultés musculo-squelettiques, etc., pour revenir, voire respiratoires, pour revenir à un haut niveau, effectivement, ça peut être plus problématique.
Oui. Merci beaucoup, Bernard Castan, infectiologue du côté de Périgueux, et François Trieux, présentateur de Sud Radio Rugby ce week-end. François, bah, on devrait quand même avoir ce match et vous devriez pouvoir le commenter ce week-end. Bon, ce sera un match différent, mais quand je regarde quand même la composition d'équipe, même avec les remplaçants, etc.
On a des chances.
Elle a fière allure quand même, cette équipe. Elle, mais c'est vrai, il y a un bon réservoir quoi, aujourd'hui.
Elle a fière allure et vous savez, je ne sais pas si vous souvenez, si vous souvenez, pardon, je suis un peu enrhumé, donc je
ne
parle pas très bien.
Oui.
Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la Coupe d'automne des Nations, là, cette compétition, il y avait 6 matchs. Mmh. Il a fallu changer d'effectif de fond en comble au bout de 3 matchs. Et du coup, ça a permis au staff, finalement, c'était des bisbilles entre la Ligue et la Fédération. Et il y a eu finalement la possibilité de renouveler l'effectif, de donner sa chance à pas mal de joueurs.
Ouais.
Et aujourd'hui, il y a ce vécu-là. Donc, finalement, on appréhende cette situation avec, je pense, moins d'appréhension. C'est le cas de le dire.
Ouais, voilà. Complètement. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, changement de décor.
On va vous parler de votre argent. Vous savez, l'argent qu'on vous enlève de votre fiche de paye ou les entreprises. On va vous parler de l'URSSAF. Vous en avez tous entendu parler. Un cancer français aux éditions du Rocher. François Taquet, qui est un avocat, membre du cercle l'a fait, qui est le think tank qui œuvre pour améliorer justement ces relations entre les entreprises et l'URSSAF, sera avec nous dans quelques instants. Et puis on aura un peu plus tard Christophe Basse, qui est président du Conseil national des administrateurs judiciaires, puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui en difficulté risquent de disparaître. Et ben on va expliquer comment justement éviter ces liquidations judiciaires. Restez là et on revient dans un instant.